Allez, africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez RFI dans la barre de recherche de YouTube, cliquez sur le logo de RFI et abonnez-vous pour être au courant de nos dernières publications.
Merci d'écouter RFI 7h30 à Rabat et Paris 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
On vous retrouve Vincent Dublanche pour le journal et vous nous parlez bien sûr des demi-finales de la CAN. Aujourd'hui, Sénégal-Égypte et Maroc-Nigéria.
Ah oui, et ce sera à suivre bien sûr sur nos antennes africaines. Il n'y a pas vraiment de favoris, Andréane. Les Sénégalais y croient, vous allez l'entendre. Les Nigérians aussi, et là vous l'entendrez dans le journal de la CAN dans 10 minutes. Dans cette édition, des témoignages d'habitants de la zone de Djibasso, c'est dans l'ouest du Burkina Faso. Les raids djihadistes y font de nombreuses victimes, les populations souffrent. On est allé faire un tour aussi au port d'Abidjan, des centaines de camions sont bloqués, faute de documents administratifs de sortie, mais aussi parce que les acheteurs internationaux de cacao jouent la montre, vous allez comprendre.
Cette question, ensuite à la une du journal international dans 30 minutes en Iran, la répression est-elle en train d'avoir raison de la contestation?
Et pour y répondre, on va appeler Siavosh Ghazi, puisque les lignes téléphoniques classiques fonctionnent à nouveau depuis Téhéran. Dans ce journal, on sera également à Cotonou et puis à Dakar, on parle dans les deux villes de poursuite judiciaire contre des députés.
Vincent, y a-t-il des favoris pour ces demi-finales de la CAN de foot?
Excellente question, Andréane. Le Maroc, peut-être, parce qu'il joue à domicile. Le Nigeria, parce qu'il a écrasé, en gros, tous ceux qu'il a croisés jusqu'ici. Et puis, dans l'autre match, les Égyptiens, peut-être, qui montent en puissance, qui ont sorti le tenant du titre ivoirien. Désolé pour les Ivoiriens. Ou bien les Sénégalais, encore jusqu'ici, il faut le dire, en mode plutôt force tranquille. En tout cas, du côté de Dakar, Babacar Fall, le choix est vite fait.
Le Sénégal-Égypte de ce soir, dans toutes les discussions, Aziz pense que les Lions ont tout pour battre les Pharaons.
Par rapport à nos dernières rencontres, l'équipe du Sénégal est sortie vainqueur de la Coupe d'Afrique en 2021. L'équipe du Sénégal a encore éliminé l'Égypte, le privant de mondial. Si on parle vraiment d'ascendance psychologique, l'équipe Sénégal est au-dessus de la moyenne.
Aminata, une mère de famille, sera devant sa télé pour, dit-elle, attendre une victoire de la bande à Sadio Mané.
Depuis le commencement de la CAN, le Sénégal a joué tous les matchs avec stratégie. On a tout gagné.
La meilleure façon de résoudre l'équation égyptienne, c'est de très tôt plier l'affaire, selon Khadim, un autre supporter.
Si tu vois nos matchs précédents, on entend très mal même. Donc si on s'entend bien, en plus tous les 15 premières minutes, moi, je pense bel et bien qu'on aura quelque chose. On a les arguments, on a les meilleurs jours.
Toumani, un retraité, se veut plus sage.
Le score, je ne peux pas prononcer parce que c'est une équipe adversaire qui est puissante comme nous aussi.
Babacar Fall, Dakar, RFI.
Sénégal, break!
Et si vous voulez vous prononcer, vous, sur les scores, l'antenne d'appel sur l'actualité est ouverte tout à l'heure sur RFI.
Burkina Faso, situation sécuritaire toujours aussi difficile pour les habitants.
Et des témoignages ce matin depuis Djibasso, commune rurale de 6000 habitants avec plusieurs dizaines de villages alentours. Nous sommes là tout près du Mali, pas si loin finalement de Djéné par exemple. À Djibasso, Frédéric Gara, les raids djihadistes ont poussé la population à fuir.
Djibasso, c'est l'une des dernières grosses villes avant la frontière malienne, à l'ouest du Faso. Une ville qui, depuis deux semaines, sert de refuge à des centaines de villageois alentours qui sont chassés par d'incessants raids terroristes. Cette femme, qui souhaite rester anonyme, a témoigné au micro de RFI Mandinkan.
Nous avons fui au pas de course, ma maman et moi. On voyait les balles passer au-dessus de nous, c'était dur. On entendait le crépitement des armes, nous ne savons même pas comment nous avons pu nous échapper. Nous avons trouvé refuge à Djibasso et c'est dans cette situation que nous sommes. Dans les villages autour, il n'y a plus personne et ceux qui sont morts ne sont toujours pas enterrés. Ils sont abandonnés dans le village et ce sont les chiens qui s'en occupent.
Les terroristes frappent depuis le 30 décembre, incendient les habitations et les récoltes, volent le bétail. Une situation critique que les populations ne supportent plus et qui a donné lieu à des manifestations d'habitants qui réclament que Mali et Burkina coopèrent mieux en matière de lutte antiterroriste. Cet homme fait partie des manifestants.
Oui, effectivement.
Oui, effectivement, la sécurité n'est pas là. Donc les gens ont manifesté et puis ils ont marché parce qu'on voyait les frappes. On ne sait même pas où aller. Il n'y a même pas de soutien qui vient. Les terroristes, ils frappent au Burkina, sur la frontière. Ils partent du Mali et ils viennent frapper au Burkina. Et nous, nous sommes sur la frontière.
Tous les témoignages recueillis concordent face aux assauts djihadistes. Pas d'opposition des forces régulières ou bien des VDP. Les populations qui fuient Djibasso et sa région se retrouvent à Nouna ou à Bobo-Dioulasso dans un dénuement total.
Frédéric Gara.
Vincent, des centaines de camions chargés de cacao bloqués au port d'Abidjan.
Et c'est une conséquence de la baisse des cours du cacao. Les multinationales ne se précipitent pas pour acheter au prix fort les stocks qui n'ont pas encore été vendus. S'y ajoutent des difficultés administratives, disent les syndicats du secteur. Binta Diagne s'est rendue au port pour nous.
Des dizaines et des dizaines de camions recouverts de bâches sont stationnés en file indienne près du port. Ces véhicules viennent d'Adzopé, de Danané ou encore d'Abengourou. Ils contiennent des sacs remplis de fèves de cacao. Mais ils sont immobilisés ici depuis plusieurs semaines. Comme tant d'autres, Fousseini Sawadogo paye 10 000 francs CFA chaque jour pour la sécurité de son véhicule.
Chaque soir, 10 000 francs paye et puis force de l'ordre vient le garder. Sinon, une fois qu'il n'y a pas de sécurité à côté de nous, bon, ils vont désirer nos bases, prendre nos cacao et puis bon. Non, j'ai oublié, on aura payé.
Certains ont posé une natte pour dormir sous leur camion, d'autres un hamac accroché entre deux grosses roues. L'attente s'avère longue et coûteuse, comme l'explique Seydou Sangaré, qui surveille son camion jour et nuit depuis le 26 décembre.
Là, on ne travaille pas. Le 26 décembre, aujourd'hui, là, si ça tournait bien, on pourrait faire presque 5 à 6 voyages, plus qu'un million.
Une odeur de fermentation se dégage de certains véhicules. Alors Fousseini Ouattara s'interroge sur l'état de la marchandise.
Il y a la moisissure qui prend les cacao. Bon, si on nous accepte qu'on s'en va décharger, à cause de la moisissure, on peut nous refouler. Donc tout ça, là encore, c'est un pet de temps. On peut nous dire, bon, retourne avec le cacao au magasin.
Conséquence de ce blocage, les planteurs de cacao affirment attendre le paiement de leur production. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Bénin, un député de la législature sortante a comparu hier devant la justice.
Soumaïla Sounomboké, accusé d'apologie de crimes contre la sûreté de l'État, notamment pour avoir publié sur les réseaux sociaux ses jours de fête. Le 7 décembre, date du coup d'État déjoué. Compte rendu d'audience, Jean-Luc Aplogan.
Sur la cinquantaine de personnes en détention provisoire dans l'affaire du coup d'État manqué, le député Soumaïla Sounomboké est le premier à comparaître devant les juges. Son cas a fait l'objet d'une procédure de flagrant délit jugée inadaptée par ses deux avocats. Pour eux, les délais entre son interpellation et sa première comparution sont inhabituels. Maître Moussbaï Padonou conteste cette qualification et explique.
Ils ont utilisé la procédure flagrance, mais pas dans un cas de flagrant délit. C'est pour cela que nous nous contestons. On ne devait pas être dépouillé de son immunité. Après tout, c'est un député.
Les faits concernent la publication le 7 décembre, en pleine tentative de coup d'État, du message suivant sur les réseaux sociaux. C'est jour de fête. Fin de citation. À la barre, l'accusé, tout de blanc vêtu, déclare que la fête évoquée concernait des retrouvailles entre amis. Le député ajoute, je suis contre les coups d'État, mon parti également, je ne peux pas en faire l'apologie. La défense a sollicité une libération provisoire, rejetée par la cour. Maître Padonou exprime sa déception.
Je suis déçu qu'on continue de garder quelqu'un comme ça. On aurait pu dire qu'il y a des risques, mais les élections sont terminées.
La Cour a renvoyé l'affaire au 24 février prochain. Le député a quitté le tribunal, menotté, accompagné jusqu'au fourgon par l'un de ses avocats. Ses gardiens lui ont enfilé un gilet pare-balles avant le départ. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Un maintien en détention provisoire également au Sénégal pour Farban Gom. Décision lundi de la justice après l'appel interjeté par le parquet financier, appel de la décision de remise en liberté conditionnelle du député maire de l'opposition. Il est accusé de détournement. Ça fait près d'un an qu'il est détenu, Léa Lisa Vesterov.
Incarcéré depuis février dernier, Farban Gom est mis en examen, entre autres pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie sur les deniers publics, portant sur des montants estimés à plus de 123 milliards de francs CFA. Mais lundi, son co-accusé, l'homme d'affaires Taï Roussard, a bénéficié d'une liberté conditionnelle. Farban Gom, non. Pour l'avocat de ce proche de Macky Sall, ce traitement différencié est la preuve d'un acharnement politique. Antoine Vey.
Il n'y a rien qui justifie qu'entre deux co-accusés de même fait, il y en a un qui soit remis en liberté, l'autre qui soit maintenu en détention. Donc je dis très clairement qu'à part une injonction politique, rien juridiquement ne peut justifier son maintien en détention aujourd'hui et la privation d'accès à des soins dont il a grandement besoin.
Du côté du ministère de la Justice, on assure que c'est la découverte fin décembre que l'accusé détenait frauduleusement sérieusement deux téléphones portables en prison qui justifient son maintien en détention. Yacine Fall, ministre de la Justice.
Ces appareils ont été utilisés pour des communications transfrontalières avec le Maroc, avec le Mali, avec l'Autriche, le Bangladesh et les États-Unis. Ces appareils ont été utilisés pour des opérations financières. Donc, il ressort de ces faits qui sont susceptibles de qualifications pénales multiples. Et nous allons demander l'ouverture d'enquêtes approfondies.
Quant à l'état de santé de Farbangom, incompatible avec la vie carcérale, selon ses avocats, pour la ministre de la Justice, Yacine Fall, il ne justifie pas une libération provisoire dans l'immédiat. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Il est 6h40 à Dakar, vous êtes sur RFI.
RFI 7h40 à Paris, tout de suite, c'est le journal de la CAN.
Le journal de la CAN.
Et c'est toujours avec Christophe Diremzion, alors qu'on approche hein, tout doucement, mais sûrement, de la fin de cette CAN avec les deux demi-finales aujourd'hui, Christophe.
Effectivement, dernier carré de la compétition avec le carré d'as, ou presque, de l'Afrique actuelle du foot, puisque les quatre équipes restantes font partie des cinq meilleures du dernier classement mondial de la FIFA, ce qu'on a perdu en belle surprise. On le gagne évidemment en confrontation alléchante, comme ce Sénégal-Égypte à Tanger qui va lancer la journée. Revanche de la finale de la CAN 2022 entre les Lions de la Terre et des Pharaons, une nouvelle fois aux portes d'une finale sans impressionner, mais qui sait y faire lorsqu'il s'agit de faire tomber l'adversaire. Thomas Tsonegi.
À défaut de bien jouer, l'Égypte est maître dans l'art de faire déjouer l'adversaire. Une équipe solide, roublarde, voire truqueuse. Les éléphants d'Emers Faye s'y sont cassés les défenses en quart de finale. Un rappel utile pour Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal.
Une personne avertie en vaut deux. Emers nous a avertis. C'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Nous avons travaillé pour faire bouger tout ça.
Il faudra aussi garder son sang-froid, ne pas tomber dans le piège des provocations, d'autant que 7 joueurs sénégalais seraient suspendus pour une éventuelle finale en cas de carton jaune. L'attaquant Habib Diallo en fait partie.
Il faut être plus malin, on connaît les Égyptiens, comment ils jouent, comment ils fonctionnent. Après, on va suivre les consignes du coach et essayer de faire notre football comme d'habitude.
Et d'habitude, ces derniers temps, les confrontations Sénégal-Égypte tournent à l'avantage des Lions, en finale de la CAN au Cameroun, en barrage de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont pris l'ascendant sur les Pharaons. Pas de quoi non plus tomber dans l'excès de confiance, assure le capitaine.
Ça sera un match totalement différent. Ils sont passés discrètement. Personne n'a parlé d'eux. Mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà. Ça sera un match où peut-être fermé. Mais nous, on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale.
Une finale qui serait la quatrième de l'histoire du Sénégal à la CAN. L'Égypte en compte déjà 10 pour 7 titres. Thomas de Saint-Léger, Tanger RFI.
L'Égypte de Moussala qui n'a encore jamais gagné une CAN face au Sénégal de Sadio Mané, qui lorgne un second sacre, première intégrale de la journée à partir de 17h, temps universel, à suivre en Afrique uniquement avec Thomas de Saint-Léger et Antoine Grenier au commentaire et Olivier Pron en studio.
Et Thomas de Saint-Léger que l'on retrouvera dans le prochain journal à 8h. Christophe, à suivre ce soir ensuite la deuxième demi-finale, Nigeria-Maroc.
Oui, les Lions d'Atlas, plus que jamais en mission pour leur pays, à deux doigts du rêve ou du drame national. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, tant les Super Eagles sont certainement l'équipe la plus impressionnante de ce tournoi. Le sélectionneur marocain Walid Regragui est en tout cas très fier de se mêler à la bagarre entre cadors, avec en plus un casting 3 étoiles qui fait une très belle pub à la CAN.
Dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes qu'on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, ben, eux, ils ont un ticket à chaque fois, ils se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les stades, on va avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. Je pense que ça va être l'évolution des futures compétitions africaines. On va avoir des meilleures conditions, il y aura de moins en moins de surprises, on aura de plus en plus de chocs, plus de spectacles, on pourra vendre les droits à l'étranger, on donne un meilleur spectacle de notre continent. Et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis plus heureux des coachs, parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si ce n'est pas toujours parfait. Mais on avance dans le bon sens.
Walid Regragui avec Christophe Jousset, en trio avec Cédric de Oliveira et Joseph-Antoine Bell pour ce Nigeria-Maroc, 20h TU à Rabat, plus Saliou Diouf pour l'animation studio. Et comme pour Sénégal-Égypte, eh bien c'est à suivre à la radio sur RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio uniquement pour l'Afrique.
Christophe Diremzion, merci. on continue de parler de la CAN tout de suite avec vous Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
C'est à la une de la presse africaine, la CAN et des demi-finales en or.
Sénégal, Égypte et Maroc, Nigeria pour des demi-finales. On ne pouvait mieux rêver pour cette CAN Maroc 2025, s'exclame Wakat Serra à Ouaga. Une CAN qui tient toutes ses promesses, tant au niveau de jeu généreusement fourni par des sportifs que des stars qui ont décidé de jouer non pas pour leur propre gloire mais pour le collectif. Ils seront 5 ballons d'or africains sur les pelouses tout à l'heure pour essayer de décrocher les 2 tickets pour la finale. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah, le Marocain Achraf Hakimi et les Nigérians Victor Osimhen et Ademola Lookman. Un carré d'as aux aires de finale pointe encore Wakat Serra avec des confrontations qui seront chaudes compte tenu des forces et des ambitions en présence.
Et dans chaque camp, on fourbit ses armes.
Maroc-Nigeria, même pas peur, lance l'hebdomadaire marocain tel quel sur son site internet. 22 ans après, le Maroc retrouve le parfum d'une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, au complexe Moulay Abdellah, les Lions de l'Atlas défient le Nigeria, monument du foot africain, dans un choc qui sent l'histoire, la revanche du temps et l'instant de bascule. Face à l'une des meilleures sélections du continent, le Maroc avance sans trembler, respectueux mais pas impressionné.
Duel pharaonique pour les Lions, Piaf, Wolf quotidien à Dakar.
Les Lions savent qu'ils sont à 90 minutes, voire 120 minutes des portes d'une finale. Face à l'Égypte, ils seront appelés à sortir l'écrou, même s'ils partent avec les avantages des pronostics. Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont jamais fui leur statut de favori depuis le début du tournoi. Ils l'assument sur le terrain, sans pour autant briller, comme le souhaitent leurs nombreux supporters. Le Sénégal doit tout de même se méfier d'une sélection égyptienne accrocheuse et solide derrière.
Un absent de marque à cette CAN tout de même, le roi du Maroc, invisible depuis le début de la compétition.
Mais où est passé Mohamed VI, s'interroge le Point Afrique. Ce soir, c'est le prince héritier Moulay Hassan, 22 ans, qui représentera le pouvoir royal. Face aux interrogations croissantes sur l'absence de son père, un communiqué a été publié il y a 2 jours par l'agence officielle MAP, comme quoi le roi souffrait du dos. En fait, une compression probable du nerf sciatique, explique un spécialiste cité par Le Monde Afrique, qui peut s'expliquer par une hernie discale, de l'arthrose lombaire ou encore une tumeur. En tout cas, il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur l'état de santé du roi. Âgé de 62 ans, Mohamed VI affiche une santé fragile, nous rappelle Le Monde Afrique, que plusieurs personnes attribuent sous le couvert de l'anonymat à une sarcoïdose, une maladie rare qui atteint dans la plupart des cas les poumons avec des complications ultérieures sur d'autres organes.
Enfin, au Mali, sorti par le Sénégal en quart de finale, certains supporters sont très remontés contre un certain Sinayoko Karamoko.
Oui, il est surnommé le marabout de la CAN, un soi-disant féticheur malien qui avait annoncé la victoire de son équipe et bien raté. D'après le site Sénégo, le sieur Karamoko aurait été arrêté pour escroquerie. Il assurait en effet détenir des pouvoirs mystiques capables de garantir la victoire des aigles du Mali à la CAN. En échange de donations, il aurait ainsi perçu plus de 22 millions de francs CFA. À l'annonce de la défaite du Mali face au Sénégal, une foule en colère s'est rendue au domicile du marabout présumé. La police est intervenue à temps pour l'exfiltrer et éviter tout débordement. Réaction de l'intéressé rapportée par Jeune Afrique. Si Dieu ne m'a pas écouté, vous devez comprendre. Et je remercie surtout la police d'être intervenue au bon moment. Commentaire du site panafricain. Les promesses du prétendu marabout étaient moins fiables qu'il n'y paraissait. Elles étaient surtout soumises à la règle du Inch'Allah.
Frédéric Couteau. Et on verra dans 5 minutes que Maman a aussi un mot à dire sur ces demi-finales de la CAN. Restez avec nous. Dans une demi-heure, la revue de presse internationale. Le bain de sang en Iran à la une.
Oui, avec sans doute des milliers de morts. La presse s'interroge, nous le verrons toujours sur la suite des événements.
A tout à l'heure, Frédéric.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard.
Et oui, l'Iran toujours à la une ce matin au 18e jour de contestation ce mercredi et d'une répression sanglante, en tout cas c'est ce qui transparaît, des bilans humains qui augmentent fournis par des ONG basées hors d'Iran, hein, ces bilans. Rana par exemple parle de plus de 2500 morts à ce stade. Nous serons en ligne avec Téhéran et Siavosh Ghazi dans le prochain journal. Hier, le président américain Donald Trump, dans un message sur Truth Social, son réseau, a appelé les Iraniens, Donald Trump, à prendre le contrôle de leurs institutions, assurant, je cite, que beaucoup d'aide est en route, sans donner plus de détails. En Russie, 2 personnes tuées ce mercredi après des attaques de drones ukrainiens menées sur la ville de Rostov sur le Don. Et puis l'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette réunion aujourd'hui à la Maison-Blanche sur le Groenland. Les ministres danois et groenlandais des affaires étrangères vont être reçus par le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Enfin, on en parle. parallèle les demi-finales de la CAN. Ce soir, le Sénégal affronte l'Égypte à 17h, temps universel, et puis Maroc-Nigeria, c'est à 20h, temps universel, et ce sera à suivre sur les antennes africaines d'RFI, sur notre site, notre live dédié RFI.fr, et on en reparle dans le prochain journal. Au Sénégal, la dette publique est immense. Elle atteint 132% du produit intérieur brut, selon le FMI. Une situation presque catastrophique, a admis Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, il y a quelques jours, mais qui ne nécessite pas, selon lui, de restructuration. Cette dette est viable, assure-t-il. Alors, pourquoi le chef du gouvernement sénégalais dit non à la proposition de restructuration du Fonds monétaire international? Et surtout, a-t-il les moyens, Ousmane Sonko, de tenir tête aux grands financiers de Washington? Élément de réponse ce matin avec notre grand invité Afrique, l'économiste sénégalais Serigne Moussa Dia. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Serigne Moussa Dia, bonjour.
Bonjour.
Alors avec 50% des revenus de l'État sénégalais qui servent à rembourser la dette, est-ce que le pays ne risque pas de se retrouver en défaut de paiement dès ce premier trimestre 2026?
Bon, je répondrai non, vu aujourd'hui la capacité du Sénégal à mobiliser des fonds durant l'année 2025. Maintenant, peut-être sur le pic 2027, donc c'est là où peut-être on peut attendre que le Sénégal pourra faire un défaut. Mais aujourd'hui, le Sénégal est en train de mobiliser d'autres fonds alternatifs qui lui permettent de pouvoir faire face à ses engagements.
Alors, vous parlez de fonds alternatifs. Est-ce que le franc CFA, via le mécanisme UMO à titre, offre justement au Sénégal une source de financement alternative au moment où il ne peut plus se refinancer sur les marchés internationaux, notamment sur les marchés des eurobonds?
Oui, il faut reconnaître aujourd'hui que l'UMO à titre est une plateforme régionale qui permet aux 8 pays de la zone CFA, donc de la zone UMOA, d'émettre des titres publics. Donc, c'est aujourd'hui un endettement régional qui pourrait permettre au Sénégal d'avoir une alternative de financement.
Alors, pourquoi le Premier ministre, Ousmane Sonko, refuse-t-il une restructuration de cette dette, comme le lui propose le Fonds monétaire international?
Oui, la restructuration, selon le point de vue du Premier ministre Ousmane Sonko, est que l'FMI peut-être ne voit pas les efforts qu'il est en train de consentir pour faire face aujourd'hui à cette dette qu'il n'a pas lui-même générée à travers son plan de redressement. Aujourd'hui, le Sénégal a élargi ses recettes fiscales, le Sénégal a compressé ses dépenses et aussi le Sénégal aujourd'hui est dans une discipline budgétaire. Et tout cela réuni, le FMI devrait au moins reconnaître ses efforts. Donc, restructurer aujourd'hui la dette pour ce régime-là, ce serait décrédibiliser les efforts fournis par le régime qui est en place. Mais aussi, aller dans une restructuration va amener le Sénégal vers l'exclusion du marché.
L'avantage d'une restructuration, disent certains économistes du FMI, c'est que cela pourrait permettre au Sénégal de tout rembourser, mais plus lentement et moins cher.
Oui, dans la théorie, ce serait bien. Mais quelle est la contrepartie? La contrepartie est que le FMI sera à la commande et que le gouvernement qui se dit de plus en plus souverain va perdre la mainmise sur son économie et va accepter des conditionnalités que le FMI va lui proposer.
Voulez-vous dire que le FMI pourrait imposer la suppression d'un certain nombre de subventions ou la hausse de certains impôts?
Exactement. Le FMI pourrait lui imposer de diminuer ses subventions, notamment du point de vue énergétique.
Sur le carburant?
Oui, sur le carburant et même la Sénélec qui est une société sénégalaise qui est tellement dépendante des subventions.
La société d'électricité.
L'électricité nationale. Donc, tout cela va impacter sur la vie des Sénégalais.
Et qu'est-ce que le FMI pourrait imposer encore, éventuellement?
Une contraction des dépenses, surtout des dépenses courantes, notamment les salaires, diminution des dépenses opérationnelles, notamment les dépenses de fonctionnement. Donc, ça peut amener des tensions sociales au sein du Sénégal.
Alors, justement, pour redresser la barre sans passer par la potion du FMI, le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui est un ancien haut fonctionnaire des impôts, compte beaucoup sur une augmentation de 4 points des recettes fiscales, grâce notamment à de nouvelles taxes sur les jeux de hasard et sur les transferts mobiles. Mais certains économistes disent que l'objectif est irréaliste.
Moi, je ne dirais pas un objectif irréaliste. N'oubliez pas, le Sénégal est un système où l'économie est basée sur l'informel et qu'il y a énormément de niches que le Sénégal ne peut pas aujourd'hui, n'a pas encore pu aller tirer des recettes. Et aujourd'hui, ces jeux de hasard, tous les Sénégalais jouent aujourd'hui sur ces jeux de hasard. Et ça se passe sur des plateformes. Il y a une traçabilité des opérations. Donc, moi, je dirais, oui, c'est possible.
Et de nouvelles taxes sur les transferts mobiles, est-ce que ça ne risque pas d'être impopulaire ?
Ben, on est dans un pays où les gens ne payent pas assez d'impôts et que seul où on peut les contraindre à payer des impôts, pour moi, c'est à partir de ces transferts-là. Donc, pour moi, c'est viable. Et le gouvernement a aussi le soutien du peuple. Et ça aussi, c'est un facteur important.
Les transferts par téléphone mobile. Hein.
Oui, parce que n'oubliez pas, le taux de bancarisation est faible. Donc, toutes nos transactions, ça passe principalement par ce qu'on appelle les opérations de transfert mobile. Et là, je pense que l'État peut en tirer des gains sans pour autant diminuer le pouvoir d'achat considérablement des Sénégalais.
Docteur Sérigne Moussa Dia, je vous remercie.
L'économiste sénégalais Sérigne Moussa Dia, un entretien avec Christophe Beaubouvier. On reparle de la CAN avec vous ce matin. Ce soir, ce sont les demi-finales et vous nous dites que cette étape de la compétition, c'est comme le premier tour d'une élection présidentielle.
Oui, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quatre équipes, quatre candidats, quatre projets de société, pardon, quatre projets de jeu, quatre rêves d'un avenir meilleur et à la fin, il n'en restera que deux qualifiés pour le deuxième tour pour la finale dimanche. Mais ici, contrairement à la politique, il n'y aura pas d'alliance électorale de dernière minute ni de trahison sur le terrain. Ce sera chacun pour soi, le ballon pour tous. Le seul point commun est qu'il y aura des larmes au coup de sifflet final juste après l'annonce des résultats. Comme à l'élection présidentielle, chaque équipe qualifiée pour les demi-finales a mené une campagne bien ficelée avec un programme électoral très bien calibré. Cette équipe-ci a promu le changement par la défense de la Teranga. Pour cette autre là-bas, ben c'est le renouveau par l'attaque avec des centres pour Osimhen, pendant qu'une autre de l'autre côté prêche le retour aux valeurs sûres du football des années 2000, alors que la quatrième a pour slogan de campagne « On est chez nous, le stade est à nous ». Et au milieu de tout ça, il y a toujours un entraîneur qui parle comme un candidat en meeting. « Nous sommes une équipe unie, déterminée et nous croyons en notre projet collectif ». Traduction, on va tenir bon jusqu'au tir au but. Et après, c'est chacun pour soi. Dans cette élection, le vote ne se fait pas dans l'isoloir, mais dans la surface de réparation. Les urnes, ce sont les buts. Et le bulletin de vote, ben c'est le ballon. Il faut mettre le ballon dans les urnes plus souvent que l'adversaire. Et comme dans toute élection au Gondwana, il y a parfois un petit doute sur le comptage des bulletins de vote. Il y a but ou il n'y a pas but. Et là, c'est la CENI qui décide, c'est-à-dire la VAR. Elle regarde, re-regarde, appelle l'arbitre qui met la main sur l'oreillette et à la fin, il trace un rectangle dans l'air avec ses doigts et il valide ou pas. Et puis, le grand moment arrive. Le second tour, la finale de dimanche, quoi. Les deux candidats qualifiés vont se préparer pour le débat présidentiel en one-to-one sur la pelouse. Le vainqueur deviendra alors président fondateur du football africain pour un mandat présidentiel de 2 ans. Mais attention, il paraît que le président fondateur de la CAF, main dans la main avec le président fondateur de la FIFA, envisage de passer ce mandat présidentielle de la CAN de 2 à 4 ans, sans référendum, sans modification de la Constitution, contre la volonté populaire. Mais c'est connu, en très très démocratique république, la voix du peuple ne sert à rien à part monter dans le bus. Alors, mes chers électeurs sportifs, dimanche prochain, allez voter pour ce deuxième tour où le football montrera à la politique comment on peut perdre une élection présidentielle sans contestation, sans crise post-électorale, avec juste des applaudissements pour le vainqueur qui pose avec le trophée au milieu de la pelouse. À demain.
Merci Maman, c'est demi-finale de la CAN ce soir. Que le meilleur gagne, nous dit Daniel Moucault sur notre chat YouTube. Continuez, écrivez-nous, donnez vos pronostics, ça nous intéresse évidemment. Vous en parlez aussi avec Juan Gomez tout à l'heure dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous 8h10, temps universel.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Une vie à redresser la langue, à corriger les fautes, les fantaisies, à rajouter des points ou des accents. Pendant longtemps, Hélène Frédéric a été correctrice dans les journaux. Dans son roman baptisé Lézarde, elle raconte au grand jour ce métier de l'ombre et l'art de virguler les papiers des autres.
De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau Hip-Hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Que se passe-t-il en Iran ? Ampleur des manifestations, poids des soutiens du pouvoir, guerre de l'information. Les auditeurs nous demandent comment nous pouvons savoir ce qu'il se déroule exactement dans le pays avec la coupure d'Internet.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 19h41 sur RFI. L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet Actu de votre application, abonnez-vous à notre chaîne.